Bonjour Julien Bayou.
Bonjour.
Donald Trump aurait pris sa décision sur l'accord de Paris. Il devrait la faire connaître dans la soirée. Et selon plusieurs sources, il aurait choisi de sortir de cet accord sur le climat. Est-ce que vous redoutez les conséquences de cette décision ?
Ben absolument, c'est une catastrophe à venir parce que on joue pas tel ou tel accord de libre-échange ou je ne sais quoi. On joue tout simplement les conditions de la survie de l'humanité sur Terre. Enfin, c'est embêtant d'être aussi dramatique à 7h50, mais malheureusement, c'est bien ça. Maintenir les conditions de la possibilité de l'existence humaine sur Terre pour les prochaines générations futures. Et on voit déjà maintenant, et y compris aux États-Unis, les conséquences du dérèglement climatique, sécheresse, inondation, tornade, etc., etc.
Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que les États américains, individuellement, décident de compenser, en quelque sorte, cette décision en respectant, eux, les conditions de l'accord de Paris ?
Il y a bien sûr des États qui sont vertueux, et puis même des États qui ont compris, ce qu'on a encore un peu de mal à faire comprendre en France, à quel point on peut créer des emplois via les énergies renouvelables, par exemple. Donc la Californie, San Francisco, qui développe des procédures zéro déchet, a compris qu'on pouvait avoir 30 fois plus d'emplois pour le même coût sur la question du zéro déchet, etc., etc. J'aimerais qu'on puisse l'appliquer en France. Mais le problème, c'est qu'on parle de diplomatie internationale et que les États-Unis sont un premier domino. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un pays, et un des principaux pollueurs, qui s'affranchit de toute règle de solidarité, eh bien, pourquoi est-ce qu'un autre pays, plus en difficulté financière, ne pourrait pas s'en affranchir aussi? Et en fait, c'est vraiment toute la question du multilatéralisme. À partir du moment où il y a un pays qui s'en affranchit, eh bien, on perd tous au change. Et donc là, il y a vraiment une question de leadership de la part de l'Europe, peut-être de la part de la Chine. Et la France doit jouer son rôle pour accélérer la mise en œuvre du traité.
Alors à propos de la France, justement, l'écologie était assez présente dans les programmes de Jean-Luc Mélenchon et de Benoît Hamon pendant la campagne présidentielle, mais c'est Emmanuel Macron qui a gagné, qui, pour sa part, n'a pas tellement évoqué ces questions environnementales. Précisément, est-ce que l'écologie aujourd'hui en France, qui n'est pas non plus au cœur de la campagne législative, ne fait plus recette ?
Je crois qu'il y a une espèce de dissonance, c'est-à-dire que vous l'avez dit, c'était au cœur des deux candidatures de gauche, c'est d'ailleurs pour ça que les écologistes et Yannick Jadot en avaient décidé de retirer la candidature en constatant que l'écologie était portée et par Hamon et par Mélenchon, et on s'en réjouissait, il n'y a pas eu de rassemblement possible malheureusement. Il y a une profonde attente. Si vous demandez à la population, est-ce que vous voulez qu'on vous protège des produits toxiques, qu'on règle la question de la qualité de l'air, qu'on améliore la qualité de l'alimentation, évidemment que c'est un oui massif. Le problème, c'est qu'il y a comme un plafond de verre et de transmission dans les institutions, où là, plutôt, nos représentants sont otages ou très soumis à l'influence des lobbies et rendent compte plutôt à des intérêts privés qu'à la population. Et on le mesure vraiment systématiquement dès que vous donnez la parole, les budgets participatifs, les demandes, etc. L'écologie est systématiquement là. Les plans vélo, la végétalisation, les renouvelables, etc., etc. La qualité de l'alimentation, évidemment. Malheureusement, à chaque fois, on se heurte, j'allais dire, non pas à la question de la logique de l'économie, parce que encore une fois, il y a de l'innovation, il y a de l'emploi, mais c'est plutôt la logique de la cupidité et des rentes et du statu quo.
Qu'est-ce que vous pouvez attendre, vous, chez Europe Écologie Les Verts, des législatives ?
Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas attendre 5 ans de plus sur l'écologie ou sur la moralisation de la vie publique. Et donc, il y aura des victoires à arracher pour soutenir Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, bien seul, écologiste bien seul dans un gouvernement peu ou pas écolo, ou anti-écolo, même quand on parle du Premier ministre, on lui crédite d'une sincérité dans la démarche. Il va essayer d'aller arracher des victoires. Accélérer la mise en œuvre de la transition énergétique, évidemment, créer des emplois dans les renouvelables. On ne peut pas perdre 5 ans. Et donc, il faudra des députés écologistes pour le soutenir quand, à l'Assemblée, sur des projets de loi, eh bien, les gouvernements ou les députés, on va dire, un peu godillots, qui doivent tout à Macron plutôt qu'à leurs électeurs, risqueront de flancher. Et donc, il y aura besoin de députés écologistes, même si peu nombreux, combatif pour donner le change.
Le 2 mai dernier, vous disiez, si nous voulons que la gauche écologiste pèse sur le quinquennat qui vient, il faut travailler à un rassemblement pour les législatives. La France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, par leur score indiscutable, en détiennent les clés. Ne pas proposer mieux qu'à la présidentielle revient à ouvrir un boulevard à nos adversaires politiques et au FN. Cette union avec Jean-Luc Mélenchon, elle n'a pas eu lieu. C'est lui qui a voulu faire cavalier seul.
Oui, mais là, malheureusement, l'honnêteté, c'est dire que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise ont choisi de condamner la gauche écologiste à la figuration. C'est-à-dire que, moi, j'insiste, ils sont devenus, ou par leur score à la présidentielle, les premiers à gauche, mais ça leur donne des responsabilités. La responsabilité, en l'occurrence, c'était constituer un grand groupe à l'Assemblée qui pouvait peser sur le quinquennat. En choisissant de mettre des candidatures partout, de s'opposer ici contre Caroline De Haas, là-bas contre etc., d'avoir des candidatures, y compris même contre tout, systématiquement contre les communistes, alors qu'ils avaient fait la même campagne, c'est pas 100 députés qu'il y aura pour la gauche écologiste, c'est plutôt 20 ou 30. Alors peut-être qu'il y en aura quelques-uns France Insoumise. Il y a parmi les candidats des candidats de valeur, évidemment, que j'aimerais retrouver à l'Assemblée. Mais néanmoins, c'est une lourde responsabilité et je crois que c'est une grave erreur. Parce que quand on dit que le quinquennat peut être dangereux, et notamment sur la question du droit du travail, qui nous touche vraiment de manière très concrète nos vies, notre avenir, la responsabilité, c'est d'organiser le contrepoids à l'Assemblée.
Est-ce que vous reconnaissez le Jean-Luc Mélenchon de la campagne présidentielle dans cette campagne législative ?
Malheureusement, moi, je constate juste qu'il a fait une merveilleuse campagne pendant la présidentielle, notamment à réintéresser à la chose politique beaucoup de gens qui s'étaient détournés des urnes. Ça, c'est un acquis, j'espère. Dans cette législative, encore une fois, il porte la lourde responsabilité de condamner la gauche écologiste à la figuration.
Non, mais ma question, au fond, c'était est-ce qu'il n'en est pas revenu à des formes d'outrance qui vont assez loin. Je pense par exemple aux propos sur Bernard Cazeneuve. Le gars a-t-il dit qu'il s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse ?
Oui, non, cette phrase mérite des excuses. Et puis, moi je crois qu'on peut combattre l'action de Cazeneuve, notamment sur les questions des droits, des libertés, etc. Vraiment, l'état d'urgence pose des problèmes de démocratie, d'organisation de manifestations, de liberté d'expression, c'est évident. Il y a toujours cette interrogation sur la mort de Rémi Fraisse. Il faut bien déterminer une chaîne de commande. De là à parler d'organiser un assassinat, malheureusement, il y a une victime dans cette histoire, c'est Rémi Fraisse. Et je crois que la dignité, c'est de respecter cette mémoire.
Comment avez-vous interprété les mises en garde, ce qu'on peut appeler une forme de mise en garde, d'Emmanuel Macron hier à la presse, dans le cadre de l'affaire Ferrand ?
Moi, je trouve que c'est de la fébrilité. On n'accuse pas la presse de faire son travail. Il avait d'ailleurs été plutôt réglo pendant l'affaire Fillon, en disant que, la presse devait travailler, qu'il n'y avait pas de trêve judiciaire pour les candidats. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas de trêve pour les ministres ou de pseudo-état de grâce. Richard Ferrand est empêtré dans une affaire dont il est le seul responsable. Quand j'entends le porte-parole Benjamin Griveaux dire « c'est légal », je trouve que ça fait penser au truc du RPR des années 90. À l'époque, c'était légal et c'est pas pour autant moral. Et quand on porte dans le quinquennat l'idée d'une moralisation de la vie publique que vraiment tout le monde attend, c'est-à-dire que parmi ceux qui ont voté Macron, il y en a peu qui l'ont fait par choix, mais au moins cet objectif de moralisation de la vie publique était porté par tout le monde, écologiste en premier lieu. Il y a là une désinvolture, une fragilité, une lourde responsabilité. Moi, je pense que cette affaire Ferrand aura un développement judiciaire. Mais s'il y a enrichissement comme ça, on ne peut pas dire c'est légal et tourner le dos.
Merci Julien Bayou. Bonne
Merci
journée.
Beaucoup.